Une arme n'est que du fer bien aiguisé, un outil, rien de plus, qui n'a que la valeur de celui qui s'en sert. Citation du personnage de Torkel, du roman The Shadow of the Gods, de l'auteur britannique John Gwynne. Et je suis plutôt d'accord avec l'idée. Bruce Lee, armé d'une fourchette, est plus dangereux que ma mère, armée d'une rapière. Allez, c'est parti. Première capsule de l'année 2024. Imagitateur, imagitatrice, hello there! Comment que ça va bien les gens? Eric pour les imagitateurs du JDR, j'espère que vous allez bien en ce début d'année. Et on commence avec une première capsule, et le sujet, c'est les armes, plus spécifiquement le dégât des armes. Donner une valeur numérique à une arme, que ce soit sous la forme d'un jet de dés comme Donjons et Dragons, une valeur fixe ou toute autre mécanique numérique, est-ce la bonne façon de représenter les armes? Tu comprendras que si je fais un podcast sur le sujet, c'est parce que j'ai des choses à dire là-dessus. Mettre un chiffre à côté d'une arme, ça fonctionne. Depuis le début des temps dans le jeu de rôle, c'est-à-dire une cinquantaine d'années, ça fonctionne ainsi. On n'a pas les chiffres, mais c'est quand même quoi? Au-dessus de 80% des jeux de rôle qui doivent avoir des dommages aux armes de manière numérique. Mais ça ne veut pas dire que c'est parfait. Loin de là. Donner une valeur numérique à une arme apporte tout plein d'incohérences. Et nous allons les mettre à jour, les dévoiler dans cette capsule. Bien sûr, ici, je vais généraliser. Il y a des jeux, si ça fonctionne, mais tant mieux. Mais en général, on retrouve toujours les mêmes soucis. L'un des plus gros reproches que je peux faire aux jeux de rôle, c'est que on a mis trop l'accent sur les dommages. C'est devenu la première valeur pour évaluer l'efficacité d'une arme. Et tu peux pas dire le contraire. Aussitôt qu'une joueuse, un joueur, trouve une arme autour de ta table, une fois qu'elle est identifiée, exemple, c'est une Winchester modèle 1873, la première question qu'elle va te poser, combien ça fait de dommages? Si bien que c'est même l'héritage qu'on a donné aux jeux vidéo, ces jeux qui se sont inspirés du JDR, un peu comme dans le style Diablo ou Skyrim. Si tu montes un archer, soyons honnêtes, lorsque tu fouilles un corps ou un coffre, qu'est-ce que tu veux trouver? Un arc qui fait plus de dégâts. Et c'est bien dommage. Parce que dans la réalité, lorsqu'il est temps de choisir une arme, de l'évaluer, les dommages ne sont pas le premier critère, ni le deuxième, ni le troisième. Bien d'autres choses sont à considérer avant. Dans cette capsule, on va voir qu'est-ce qui ne va pas avec les dégâts numériques et comment moi je me suis affranchi de tous ces problèmes. J'ai décidé de ne plus mettre l'accent sur les dégâts, mais sur une autre notion pour évaluer le dégât des armes, le temps. T-E-M-P-S. Et là, je peux lire dans l'esprit de certains, là. Eric, tu es tombé dans les escaliers ce matin? Tu t'es cogné la tête? Ben, peut-être, je m'en souviens plus. mais, ça a fonctionné. Tous les soucis que je vais t'énumérer, je les ai réglés. Curieux? Écoute, pour comprendre tout ça, on n'aura pas le choix. Il va falloir plonger dans l'ADN du JDR. Mais tout d'abord, on est dans une nouvelle formule sur la chaîne. Formule, écoute, on révolutionne rien, là, on est en formule podcast, OK? Donc, un format plus décontracté, on va se permettre de digresser, d'apprendre à se connaître, à flâner au lit le matin, dans les draps, le dimanche. Tu vois le genre?
Putain, t'as une haleine de chacal, toi, le matin!
Donc, un format qui va plus se prêter à l'écoute, soit dans le transport en commun ou dans ta voiture. Pour te donner un exemple, pour faire cette capsule, j'ai acheté un câble XLR de 4 mètres afin de pouvoir te parler de ma chaise berçante. Au moment où je te parle, je me berce. Oui, moi je prends soin de mon cul. C'est important, toutes les parties de ton corps sont importantes. Ton cul te fait plaisir lorsque tu t'assis. Rends-lui l'appareil. Berce-le.
Merci Eric.
Mon cul parle du nez. Bizarre. Et on va y aller avec mon premier disclaimer, avertissement. Il se pourrait que tu ne sois pas d'accord avec qu'est-ce que je vais dire. Ben, c'est normal, c'est ma vision. Je ne prétends pas détenir la vérité. Je partage une vision. Donc, si tu n'es pas d'accord, tu le dis, Eric, je ne suis pas d'accord pour X et Y raisons. mais tu commences pas à saigner du nez, déchirer ta chemise, rouler par terre comme un enfant de 2 ans qui aurait pas eu sa friandise chocolatée au supermarché. On n'est pas à Poudlard, là. Il faut quitter votre enfance, les rageux. Sourire à la maturité.
Tu es bien placé pour parler de maturité, Eric.
Donc, vous avez compris, là. Quelqu'un qui pense pas comme vous, c'est pas votre ennemi.
Je ne pense pas comme toi en JDR. Je ne suis pas ton ennemi.
Je suis juste différent. Et tu le vois bien à mes propos que je suis très différent de tout le monde, là.
Les dégâts des armes. Ah, c'est un sujet un peu testostérone, hein, pour commencer l'année, je trouve. Ah, Eric, t'es macho, t'es sexiste. Non, j'ai 2 putains d'yeux. Il y a 18 ans, quand j'ai commencé à fréquenter ma salle de tir où je pratique le tir de pistolet de précision, il y avait peut-être 1 femme pour 10 hommes. Et c'était ma copine. Ça te donne une idée, là. Aujourd'hui, après 18 ans, il y a plus de femmes dans ma salle de tir. Mais elle reste quand même en minorité. Pour 10 hommes, c'est peut-être 2 à 3 femmes. Tant mieux si dans ta région, c'est mieux. Et lorsque je vais chez les 2 armuriers où je vais chercher mes munitions, ben, ça sent aussi la testostérone. Mais attention, les femmes qui pratiquent le tir, oh, tassez-vous de là, mon oncle, elles n'ont rien à envier aux hommes. Sur Discord, il y a 2 personnes qui me demandaient pourquoi j'ai commencé le tir de précision au pistolet alors que je déteste la chasse. Mais c'est tout simplement que dans la mi-vingtaine, on était tous un groupe qui aime le sport extrême et on se lançait des défis. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? On saute en parachute. Et l'autre, on va aller tirer au pistolet. Et j'ai adoré, ainsi que ma copine de l'époque. Pour moi, c'est comme une forme de méditation. Et ceux qui pratiquent le tir de précision vont comprendre. Tu dois contrôler ta respiration et tout ton corps, de ton index qui est sur la détente jusqu'à tes orteils. Parce que je t'annonce que si tu tapes du pied, ben ça a une incidence sur le pistolet que tu tiens à bout de bras. Et mine de rien, ben dans cette salle, au cours des 18 années, j'ai rencontré des militaires, des policiers, des membres de l'escouade tactique, des instructeurs de tir, et pour un rôliste qui aime le contemporain, c'était une mine d'informations. Donc, pour nous détendre, ma copine, elle, va au spa et au massage, et moi, je vais à la salle de tir. Ça, c'est macho. Bon, il est temps d'aborder le sujet du jour, les dégâts des armes. Tout d'abord, faut savoir qu'une arme, c'est un outil. Au même titre qu'un outil de construction, sauf que c'est un outil de combat. Et t'es pas sans savoir que plusieurs armes de mêlée étaient des outils à l'origine, qu'on a dévié de leur utilité première. Que ce soit le marteau, la hache, les nunchaku, la masse, la lisse, elle est très longue. Et en construction, on n'aurait jamais idée de dire, exemple, qu'un marteau, c'est plus fort, plus puissant qu'un tournevis. À moins d'avoir l'âge mental de 3 ans, là, non. Tu peux te sentir plus viril avec un marteau dans les mains, mais ça, c'est une impression. Il n'y a aucun lien entre le fait de tenir un marteau et tes performances dans un lit. Ouais. Triste, hein? Non. Un marteau, ce n'est pas plus puissant qu'un tournevis. Tout dépendant de ce que tu veux faire ou les circonstances dans lesquelles tu te retrouves, l'un va être préférable à l'autre. Si tu me pointes un tas de planches en me demandant « Eric, construis-moi une niche pour le chien » et que tu me fous un marteau dans les mains et une boîte de vis, ben, je vais avoir l'air d'un foutu con. En tout cas, plus con que d'habitude, on s'entend, là.
Je suis plutôt d'accord avec cet énoncé.
Écrase mon cul, là. On t'a rien demandé. Et je plains le pauvre clébard qui va avoir à dormir dedans. Je n'ai pas le bon outil. Et c'est la même chose pour les armes. Ce sont des outils. T'as beau avoir l'épée la plus longue, la plus aiguisée qui soit, si t'es devant un chevalier carapassonné d'une armure de plate monté sur un énorme destrier, ben tu n'as pas l'arme la plus adéquate pour la situation. Le marteau d'arme va être un outil plus approprié. Du côté de la tête, la table, ben, tu vas pouvoir démantibuler l'armure. Et un bon coup sur le home, ton chevalier va avoir 36 chevaux sur son carrousel. Et en retournant le marteau d'arme, ben t'as le bec de corbeau. C'est fait pour ça. Tu frappes et tu tires pour désarçonner le cavalier. T'as le bon outil pour construire ta niche ou ta légende.
Commençons avec un premier aspect qui fonctionne moins bien avec les dégâts numériques. Prenons l'exemple du couteau de combat. J'ai eu en ma possession le K-Bar, qui est le mythique couteau de combat des Marines américains qui est apparu au milieu de la Seconde Guerre mondiale. Le mien datait de 1957, reconnaissable entre tous là, de par sa poignée et son manche. Si je montre ce couteau de combat à un rôliste, qu'est-ce qu'il va dire? Ouais, c'est une belle arme, mais ça fait pas beaucoup de dégâts. Et à juste titre, souvent, ce que je vois penser pour un couteau de combat, lorsqu'on vient pour lancer un dé de dommage, ça ressemble à un des quatre dans bien des jeux. Encore une fois, ici, je généralise. Par contre, si je monte ce couteau-là à n'importe quel militaire autour de la planète, que je monte mon kébar, qu'est-ce qu'il va dire? Mais d'abord que c'est une arme formidable, mortelle, et je le mets en guillemets, mortelle, et aussi un formidable outil. Si t'es dans la nature, tu peux construire un piège. Si t'attrapes une proie dans ton piège, tu peux l'apprêter. Si tu chauffes la lame, tu peux cautériser une plaie. Bref, tout soldat derrière les lignes ennemies se doit d'avoir un couteau de combat. Et pour tuer quelqu'un, toucher n'importe quel organe vitaux, trancher une artère principale, tu n'as pas besoin de 25 cm de lame. Tu n'as pas besoin de 30 cm de lame, ni de 40, ni de 60. Le kébar faisait 7 pouces, c'est un peu moins de 18 cm. Il y a des couteaux de combat de 6 pouces, 15 cm. Et c'est tout ce qu'il faut pour tuer quelqu'un. Tu atteins n'importe quel organe vitaux du corps humain. Donc, tu commences à avoir le problème à donner une valeur numérique à une arme. En donnant seulement un des quatre de dommages au couteau, je le ridiculise. J'enlève son côté létal. Si je te frappe avec un couteau de combat au cœur et qu'ensuite je te frappe avec une épée bâtarde et que je te donne un formulaire d'appréciation de l'inconfort, tu ne le rempliras pas, le formulaire. Aussitôt que tu reçois ton premier coup de couteau au cœur avec un couteau de combat, ben, t'es dans la merde. Il en faut pas plus. Nos militaires aujourd'hui ne se trimballent pas une clémard dans le dos parce qu'ils n'en ont pas besoin. Le couteau de combat est mortel. Le problème dans le 1 des 4 du couteau de combat, c'est le foutu 4. C'est sa limite. Un seul coup suffit s'il est porté à un endroit mortel, que ce soit avec un coup de couteau, un glaive ou une clémence. Mais là, je lis dans tes pensées et je suis d'accord avec toi. Si j'ai une combattante ou un combattant avec un couteau de combat face à quelqu'un qui manipule un glaive, je veux avantager celui qui a le glaive. Mais ça ne doit pas passer par les dégâts. Pourquoi on veut avantager Dlev? Ben, de un, à cause de l'allonge. De deux, parce que au niveau de la tranche, le Dlev est assez redoutable. En combat, tu peux couper une main avec un Dlev. Avec un couteau de combat, va falloir que tu te lèves tôt le matin. Parce que le problème, c'est que la force est égale à la masse fois l'accélération. Et avec le couteau de combat, on manque beaucoup de masse. Mais avantager le Dlev au niveau numérique en boostant ses dégâts par rapport au couteau de combat, ce n'est pas la bonne façon de bien représenter les armes selon moi. Il serait plus juste d'avantager le premier jet ou le jet unique de la passe d'armes. Moi, dans mes systèmes qui fonctionnent avec des passes d'armes, la question quand je lance un jet de combat, ce n'est pas de savoir si je touche. C'est une passe d'armes. Les épées vont s'entrechoquer, il y a des coups de poing, des coups de pied, des roulades au sol qui vont s'effectuer. Non, la question derrière le jet unique, c'est de savoir qui va remporter la passe d'armes. Donc, le plus susceptible de blesser l'autre, mais tout en préservant son intégrité physique. Et à cette question, trois données vont venir influencer. Lui qui a la meilleure compétence, lui qui a l'arme la plus efficace, selon les circonstances, et celui qui est le mieux protégé. Tout ça est inclus dans le seul jet unique. J'ai donné un exemple entre le couteau de combat et le glaive, mais trompe-toi pas, là, ce problème, on le retrouve sur tous les chiquiers au niveau des armes. Je veux dire, le fait de donner moins de dommages au glaive par rapport à une clémard, encore là, on diminue le côté létal du glaive. Pour moi, donner un chiffre à une arme, ça cause problème. Et ça, c'était le premier. On continue. Je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée et ça t'est sans doute arrivé à toi aussi. On est dans du Medfan et là, je me retrouve devant une demi-douzaine d'ennemis. et je suis seul. Donc, je me sauve, hein? je suis pas cave à temps plein, donc je me réfugie dans une vieille forteresse. Et je me retrouve dans un corridor, un étroit corridor. On parle d'environ 1,30 m seulement et bas de plafond. Ma tête touche pratiquement là, les poutres au plafond. Et devant moi, dans ce même corridor qui me bloque le chemin, un colosse armé d'une lourde masse. Écoute, moi, j'ai un glaive, une arme parfaite pour le coup d'estoc, donc pas vraiment gêné de par le lieu, cet étroit corridor. Mais lui, il manipule une masse. Une masse, pour que ça soit efficace, faut que tu lui donnes un élan, une impulsion. Au Québec, on dit une swing. Lorsqu'on joue au baseball et qu'on rate la balle, on dit swinguer dans le vide. Alors, là, il n'est pas en mesure de swinguer là, sa masse. Là. Il n'est pas en mesure de lui donner une impulsion. Tu peux donner des coups d'estocade avec une masse, mais c'est des chatouilles, ça, dans un combat. J'ai déjà défoncé, moi, un mur en donnant des coups d'estoc avec une masse. Mais c'était la partie en gyps. Quand est venu le temps de démolir la charpente en bois, il a fallu que je la swingue, que je donne un élan à ma masse. Et comme le plafond est bas et que le corridor est étroit, le seul coup possible qu'il peut donner, c'est par en dessous. Mais si tu as déjà fait de l'escrime ou du sport de combat comme moi, tu sais très bien que si ton adversaire connaît le coup que tu vas faire, ben t'es pas mieux que mort. T'as déjà perdu. Donc, je fais part au MJ de l'époque que l'homme ne peut pas donner un élan à sa masse, qu'il n'a pas l'outil approprié pour les circonstances. Compréhensif, le MJ décide de diminuer le jet de toucher, mais en réalité, il aurait dû aussi diminuer le jet de dégâts. Exemple, si la masse faisait 1 des 10 de dommages, ben, impossible d'arriver dans des valeurs de 6, 7, 8, 9, 10 sans élan. Tu vois, encore ici, les dégâts numériques causent problème. C'est un chiffre à côté d'une arme et ce chiffre-là n'est pas toujours optimal. C'est le problème lorsqu'on met trop d'avant les dégâts comme valeur première pour juger de l'efficacité d'une arme. C'est pas vrai, dans la réalité, c'est à quoi sert l'arme et les circonstances dans lesquelles tu vas l'utiliser. Si les dommages étaient si importants que ça, moi, là, lorsque je vais voir mes deux armuriers, qu'est-ce que je retrouverais ces tablettes s'il y avait seulement les dégâts qui comptent dans la vie? Ben, du point 500, Nitro Express, du 12,7, on va à chasse aux avions, là, les amis. Là. Mais non, il y a une multitude de calibres différents. Et sais-tu quoi? Tous ces calibres sont mortels. Et les gros amateurs de dommages, vous allez être déçus parce que la balle la plus fabriquée au monde, ben, c'est l'un des plus petits calibres, c'est le 22 Long Rifle. Et pas juste un peu, la moitié des balles fabriquées par l'être humain, c'est du calibre 22. Le calibre 22 était utilisé par des tueurs à gages et l'est encore aujourd'hui. Ding dong, tu rouvres la porte, bang, une balle en plein front. Les genoux mous, tu tombes au sol, bang, 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 trois autres balles. Si tu ne meurs pas d'une hémorragie cérébrale avant d'arriver à l'urgence, eh bien, je t'annonce que l'extraction de 4 balles de calibre 22 dans une cervelle, ben c'est à risque, hein? T'es pas sauvé. Et si jamais par miracle tu survis, ça laisse pas sans séquelles. Si on se croise 4 mois plus tard et que je te pose la question « 2 plus 2 font combien? », me répondre risque d'être un exercice aussi ardu que de monter le mont Everest. Certes, t'es physiquement vivant, mais mentalement, Également, ben, le calibre 22 a l'avantage qu'au niveau sonore, au niveau des décibels, ça va ressembler à un calibre plus puissant, mais muni d'un silencieux. Silencieux, qu'est-ce que je dis là? On devrait jamais dire silencieux, mais réducteur de bruit. Hollywood et les mythes qu'il entretient. Ah! Si tu es un rôliste qui adore le contemporain, il ne fait aucun doute que tu le sais. Un réducteur de bruit, on va dire un silencieux là, pour que tout le monde se comprenne, un silencieux, ça réduit d'environ 30 décibels. Pour te donner un exemple, le dernier pistolet que j'ai essayé, c'est le Glock 19, monté en 9 mm, et au niveau des décibels, on parle d'environ 165. En y mettant un silencieux, ben on tombe à 135. 135 décibels, c'est quoi? C'est un jackhammer, un marteau-piqueur. Tac, 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 tac. C'est très, très loin d'être silencieux. Alors pourquoi on voit des unités d'élite, que ce soit policières ou militaires, utiliser des silencieux? Mais la raison première, c'est de protéger son appareil auditif. tirer une balle à l'intérieur, mais ça détruit carrément les tympans. Des dommages qui peuvent même être irréversibles. Et comme les militaires et les policiers ne peuvent pas porter de coquilles protectrices, ils doivent entendre l'ennemi, alors on se munit d'un silencieux, d'un réducteur. L'exception, c'est le tireur de précision, le sniper. Le fait d'avoir un silencieux au bout de son canon, on vient camoufler la flamme d'éjection lorsque la charge de poudre brûle. Donc, on est moins à même de se faire repérer. Un autre avantage qu'on pourrait nommer là, pour le sniper d'avoir un silencieux, c'est que le recul est moindre. Donc, si tu as à prendre un deuxième tir, tu vas être mieux à même de vite replacer la mire sur cette cible. Il se peut qu'il y ait d'autres avantages, mais pour l'instant, ça ne me passe pas par la tête alors que je suis en train de me bercer le cul. Donc, n'hésite pas. Si toi, en commentaire, il y a d'autres avantages à avoir un silencieux, mais sache que la dernière fonction du silencieux, c'est d'être silencieux. Une autre belle digression. Bon, est-ce que ça commence à se frayer un chemin dans ton esprit que de mettre un chiffre à côté d'une arme, c'est pas optimal? Je vais y aller avec une autre écorchure sur cette mécanique. On a parlé souvent du glaive depuis le début de la capsule. Lorsque je dis le mot glaive, plusieurs d'entre vous vont associer ça à la Légion romaine. Et à juste titre, le glaive était parfait pour les Romains. Une lame courte, donc facile à produire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de soldats à armer. Une lame courte, donc plus facile à transporter. Les Romains ont un vaste territoire à protéger et les légions sont amenées à se déplacer énormément. Mais d'abord et avant tout, une lame courte, parfaitement adaptée au style de combat des légions romaines. Formation rapprochée et manipulation du grand bouclier, le scutum. Bouclier fermé, on avance. On ouvre une à deux secondes, on frappe des stocks et on referme et on avance. Maintenant, en tant que merveilleux MJ que je suis, je t'invite, toi, joueur, joueuse, à améliorer ta légion, la rendre plus forte, l'upgrader. Je te dis, va voir dans ton livre de jeu de rôle et choisis-leur une arme plus puissante qui fait plus de dégâts encore pour augmenter la puissance de ta légion. Ouais. Mais ça prend pas le cerveau de Stephen Hawkins pour savoir qu'est-ce qui va arriver. Tu vas saboter une formidable machine de guerre. Effectivement, si tu choisis une épée plus longue qui fait plus de dommages, une épée une main et demie comme l'épée bâtarde, tu viens de causer un problème. T'as déjà un grand bouclier d'une main et tu vas te prendre une épée plus longue. Bonsoir, la formation rapprochée, là. Tes alliés ne sont plus des alliés. Ils te nuisent. Et bonsoir aussi pour le bouclier qui doit seulement être ouvert, là, une à deux secondes. Et si tu choisis une épée deux mains, on n'en parle même pas. Tu dois délaisser ton grand bouclier. On change donc toute la stratégie militaire. Et si par miracle, dans ton livre, le marteau d'armes est plus puissant que le glaive, encore là, le marteau d'armes, c'est comme une masse, tu dois donner une swing. Donc la formation rapprochée, ça ne fonctionne pas. Et ton bouclier, va falloir que tu l'ouvres beaucoup plus longtemps, que tu t'exposes beaucoup plus longuement. Retiens bien la phrase que je vais te dire là, c'est la plus importante de toute cette capsule. Entre les mains d'un légionnaire romain qui se bat en formation, l'arme la plus dangereuse et la plus mortelle, c'est le glaive. Peu importe ce qui est écrit dans ton livre de jeu de rôle, peu importe le chiffre qu'on a apposé à côté de ta liste d'armes, c'est le glaive. Et ce sera toujours le glaive. Tu vois, encore une fois, mettre un chiffre à côté d'une arme, ce n'est pas la perfection. Pourquoi? Parce que les dégâts, ce n'est pas la bonne valeur première pour mesurer de l'efficacité d'une arme. C'est l'utilité d'une arme, à quoi elle sert, et les circonstances dans lesquelles tu vas l'utiliser. C'est comme pour le tournevis et le marteau. Tout dépend des conditions. Et encore une fois, je le dis, je le répète, ça fonctionne quand même. J'ai fonctionné des années et des années en acceptant cette incohérence de chiffrer des armes. Mais maintenant, aujourd'hui, armé d'une certaine expérience...
Et avec une certaine maturité dans le jeu de rôle.
Je sais, les apparences sont contre moi.
Oui, comme un bon vin,
J'ai bouchonné. Non. Mais ce que je veux dire, tu comprends ce que je veux dire, c'est que c'est pauvre, c'est pas optimal. C'est l'outil qu'on a trouvé au début du jeu de rôle et malheureusement, ça n'a pas beaucoup évolué. Cependant, par chance, il y a quelques jeux, quelques systèmes qui se sont détachés un peu de cette première mouture qui persiste. Et ça ne date pas d'hier, moi, ce malaise que j'ai toujours eu envers les armes chiffrées au niveau des dégâts. En fait, ça a commencé dès le début de ma pratique du jeu de rôle. Et ça tournait alentour du combat main nue. Ayant pratiqué plusieurs sports de combat, moi, quand je suis arrivé dans mes premières tables de jeu de rôle et que je montais un guerrier là, qui fait des arts martiaux, eh bien, j'avais l'impression de me faire prendre de haut par les autres joueurs, joueuses, l'air de dire « Mais qu'est-ce que tu fais là, Ticu? Ici, t'es dans la cour des grands, là. On se bat avec des armes. » Comme si les arts martiaux étaient inoffensifs. Et je peux le comprendre, parce que, encore une fois, je généralise, mais dans beaucoup de jeux de rôle, frapper du poing, c'est rien. De mémoire, exemple, j'avais joué à RuneQuest et le coup de poing, c'était un de dégâts, là, alors que le couteau de combat, c'était un des quatre. Est-ce que tu veux que je te bombarde de vidéos où en un seul coup de poing, un combat est réglé? Crochet à la tempe, terminé. Crochet à la mâchoire, terminé. Une frappe juste en dessous de la pomme d'Adam, terminé. Un direct au nez, tu prends vite le dessus. Plexus solaire, également. Le foie, terminé. Testicule, tu prends vite l'avantage. Et là, je ne parle même pas des prises. Je m'amusais à faire une mise en situation que je posais à certains rôlistes et très peu ont répondu adéquatement. Je te donne la mise en situation. Tiens-toi bien. Tu as un homme qui veut te tuer. Il veut te trancher la gorge parce que tu as tranché la gorge de son frère. Mais avant de sortir son couteau, il va réussir une première attaque contre toi avec autre chose, et je te donne le choix entre les deux. Soit il te tire une balle de 9 mm dans l'épaule, puis il t'attaque au couteau, soit il t'envoie un crochet à la mâchoire, puis il sort son couteau. Dans les deux cas, balle ou crochet, c'est une attaque réussie contre toi. Je n'ai pas accumulé les données, mais de mémoire, ça doit être environ, je te dirais, là, 9 rôlistes sur 10 m'ont répondu qu'ils préféraient recevoir le crochet. Et là, on voit toute la déconnexion du jeu de rôle avec la réalité. Ça fait peur. Mais malheureusement, c'est parfaitement compréhensible. Lorsque tu as des systèmes où un coup de poing, c'est un dommage, un couteau de combat, c'est un des 4, un de lèvre, un des 8 et un 9 mm aussi, là. Tu vas accepter le 1 de dommage avec le crochet à la mâchoire, là. Et j'ai posé la même question à des gens qui connaissent le combat. Tu ne seras pas surpris d'apprendre que le résultat est complètement inversé. Et c'est incompréhensible pour moi, parce que le jeu de rôle se veut, de par son système, de reproduire une certaine réalité. Et dans ce cas-là, mais on est complètement à l'inverse. Un crochet à la mâchoire, un vrai, là, pas celui de ton petit frère là, qui t'en veut parce que t'as touché à ses Legos, là. Non. Et je vais pas te raconter les crochets que j'ai distribués aux autres, là. C'est juste beau à voir. Là. Je vais te raconter celui qui m'a envoyé au sol. Je tiens à saluer Frédéric, qui était sparring partner d'Éric Lucas. Au Québec, tout le monde connaît Éric Lucas. Il a été champion du monde en 2001 de la WBC. Son partenaire d'entraînement, un gaucher, et j'ai toujours eu de la difficulté avec les gauchers au début, m'envoie un crochet sur la mâchoire. Mon corps devient mou, comme une poupée de chiffon, et je tombe sur le bitume. Ouais, c'était sur le parking. Pas de règles, pas d'arbitre. À deux reprises, j'ai tenté de me relever, mais mes jambes se sont dérobées. La sensation? L'univers tangue. Je suis à bord du Titanic, mais dans les dernières secondes, tu sais, lorsque le Titanic chavire complètement... C'est moi, ça. Après sans doute 15 secondes, j'ai réussi à me remettre sur mes deux jambes et monter ma garde haute, prêt au combat. Mais mes yeux, eux, n'y étaient pas du tout. Chacun zoomait de façon différente. Tu comprends? Et Frédéric aussi l'a compris. Ah, il l'a bien vu dans mes yeux que je n'étais plus du tout capable de faire un point focal. Le combat est arrêté là. Il avait gagné. Avoir eu un couteau, Frédéric m'aurait tranché la gorge une bonne dizaine de fois, sans que je puisse rien faire. Mais c'était bon pour ma santé. Écoute, j'ai dû me passer de viande rouge au moins pendant 2 mois, incapable de mastiquer. Ah, l'efficacité du combat main nue, qui peut envoyer un homme, qu'importe sa grosseur, qu'importe ses compétences, au sol, en un seul coup. C'est très bien représenté dans le JDR, non? Non... Bien sûr, encore une fois, je généralise. S'il y a des systèmes qui font un excellent taf au niveau du combat main nue, ben tant mieux. Et qu'est-ce qu'il en est de la balle de 9 mm dans l'épaule? Ben, il faut savoir que statistiquement, j'adore les statistiques, allez fouiller du côté des États-Unis, on retrouve de tout. Hein? C'est un grand livre ouvert, les États-Unis. Ils mettent des caméras dans leur salle de justice. Tu peux pas être plus ouvert que ça. Mais si tu te fais toucher par une balle de 9 mm, mais que ça ne touche pas un organe vitaux, tu as 9 chances sur 10 de survivre. Donc c'est énorme, là. De 1, et dis-toi que ceux qui sont morts, c'est parce qu'ils sont tombés en état de choc. Ils ont perdu trop de sang. Donc, tu reçois une balle de 9 mm à l'épaule, tu es encore conscient et debout, rapidement une compression sur la plaie pour ne pas perdre de sang et tomber en état de choc, et tu te mets à courir. La douleur, elle, pratiquement tous les témoignages concernant une balle de 9 mm vont dans le même sens. Au début, c'est comme si tu recevais un coup de batte ou un coup de marteau à l'épaule. Ça fait mal, mais ça s'endure. L'adrénaline repousse la douleur. Mais attention, lorsque la douleur va s'installer, c'est une formidable brûlure, un mal de chien. Mais entre ça, rester conscient et avec cette future douleur, et perdre le contrôle de mon corps suite à un crochet à la mâchoire et être exposé à mon ennemi qui veut me trancher la gorge, vivement la balle de 9 mm. Tu ne veux pas qu'un crochet à la mâchoire passe. Tu ne veux pas. Et encore une fois, je le répète, là où ça cause problème, c'est que dans cette majorité de systèmes, les dégâts numériques représentent l'efficacité de l'arme ou du combat main nue. Et ça va pas du tout. Non, 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 ça ne colle pas du tout à la réalité. Certes, si t'es sans arme face à quelqu'un qui a un couteau et un glaive, t'es dans le pétrin. T'as peu de chances de remporter la passe d'armes. Et effectivement, tout bon instructeur va te le dire, face à un couteau, t'es mieux d'éviter le combat. Mais si tu n'as pas le choix de t'engager et que c'est toi qui remportes la passe d'armes, même si elle est difficile, bien un coup de poing peut être tout aussi efficace qu'un coup de couteau, sinon plus, parce que envoyer quelqu'un au sol en un seul coup de couteau, c'est pas évident, tandis qu'avec un coup de poing, mais je l'ai fait plusieurs fois. Et on l'a même vu dans mon exemple, c'est même plus efficace qu'une balle de 9 mm dans l'épaule. Et des exemples comme ça, j'en ai tout plein, où les dégâts numériques ne tiennent pas la route et t'abandonnent pendant une partie de jeu de rôle. Alors pour finir, mais comment régler toutes ces incohérences qu'amènent des dégâts chiffrés aux armes et aux combats main nue? Premièrement, moi, j'exploite des systèmes où il n'y a pas beaucoup de points de vie, de points d'intégrité. Exemple, le système Basic Instinct que j'exploite depuis près d'un an. Un être normalement constitué, là, après 3 coups, tombe au sol. Que ce soit un coup de poing, un coup de couteau ou une balle, s'il y a 3 coups qui passent contre toi, en tant que héros, t'es au sol. C'est assez facile à gérer, ça. Qu'importe qu'est-ce qu'il pense, c'est la perte d'un point d'intégrité, d'un point de vie. Là où il va y avoir une différence, c'est qu'est-ce qui t'a amené au sol? Quelle arme t'a amené à ta perte et t'a couché? On va jouer sur le temps, le fameux temps que je te parlais au début de cette capsule. Si ce sont des coups de poing qui t'ont envoyé au sol, mais tu vas te relever là, dans très peu de temps. Et en quelques minutes, tu vas récupérer tes points d'intégrité. Un peu comme le combattant de UFC qui a perdu un match dans l'octogone, mais aussitôt après le combat, il prend le microphone et il salue ses fans, ses supporters. Oui, sa mère ne le reconnaîtrait pas, là, son visage est tumifié et a changé de couleur, mais sa vie n'est pas du tout en danger. Par contre, si c'est des lames ou des balles qui t'ont envoyé au sol, mais premièrement, si tu n'as pas de soin, tu risques de crever et ça va être beaucoup plus long de te remettre de tes blessures. Et moi, dans mes systèmes, aussitôt que tu as une blessure, il y a une conséquence, contrairement à Donjon Dragon. Mais ce que j'aime également, c'est que ces blessures-là ne nécessitent pas un recalcul. Autrement dit, ta stat pour remporter la passe d'armes va toujours rester pareille. Mais plus tu prends des blessures, plus tes chances de faire un échec critique augmentent. Autrement dit, de base, c'est 5% de chances de faire un échec critique. Mais plus t'es blessé, plus t'as de chances de te rater. Exemple, lorsque tu as 2 blessures contre toi, mais c'est 15% de chances de faire un fiasco, un échec critique. Cette approche-là que j'ai trouvée, j'adore. Ça évite des calculs. Et ça représente assez bien une blessure. Donc techniquement, dans ta tête, tu te dis « mais toutes les armes font le même dégât ». Mais c'est pas vrai. C'est absolument faux. Si je te tire une balle dans le genou, tu vas être sans doute handicapé à vie et ton personnage va traîner ses malus plusieurs jours. Si je te donne un coup de pied au genou, à ce moment-là, tu vas être indisposé, mais que quelques minutes, tu comprends? Donc oui, il y a des dommages différents entre les armes, mais ils ne sont pas chiffrés. Ce n'est pas un chiffre à côté d'une arme. On passe par le temps. Et mine de rien, ça vient résoudre tous les problèmes que je t'ai énumérés au début de la capsule. Et les armes ne sont pas figées sur une feuille de papier avec un chiffre qui des fois ne correspond pas ou ne fonctionne pas dans les applications. Non, on évalue l'arme selon les circonstances. Reprenons mon exemple dans cette forteresse où j'étais dans un corridor très étroit, où j'étais armé d'un glaive. Face à moi, cet homme avec cette massue, avec aucun espace pour donner une impulsion à son arme. Premièrement, on compare la compétence. Supposons que le héros au glaive ait d'égale compétence à l'homme à la massue. On commence donc avec un jet de 50% pour gagner la passe d'armes. Mais tout comme bon MJ, si tu attaques, je vais te poser la question, ben avec quoi tu l'attaques?
Je l'attaque avec un glaive.
Parfait, l'homme devant toi a une masse, mais il n'a pas l'espace pour la manipuler. Je vais donc donner un bonus en pourcentage au combattant au glaive. Ensuite, techniquement, je regarde les protections, que je traite de la même manière que les armes, et là, on a le jet. Et ça se fait en moins de 5 secondes. Ce sont les mêmes questions que tous les MJ posent. Avec quoi tu l'attaques? C'est quoi tu portes? Bref, ça se fait bien. S'il s'agit de moi, le mot de lèvre qui l'emporte, je blesse mon adversaire avec mon de lèvre, j'y enlève un point d'intégrité. C'est une sale blessure, hein, ça va prendre des soins, et ça va prendre un certain temps avant de récupérer ce point d'intégrité et de perdre le malus qui va avec. S'il s'agit du combattant avec la masse qui l'emporte, mais il touche, il m'enlève un point d'intégrité, mais comme il n'a pas l'impulsion nécessaire pour donner un coup vraiment percutant, ben le maître de jeu peut considérer que ça fait un ecchymose, que c'est l'équivalent d'un coup de poing. Donc, je vais rapidement récupérer mon point d'intégrité. Là, immédiatement après le combat, je le sens plus. J'ai juste un bon ecchymose. Donc, tu vois, c'est une mécanique très simple qui nécessite aucun tableau, aucune liste d'armes, aucune liste de protection. On y va avec les circonstances. Et pourtant, c'est plus précis que n'importe quel système avec un chiffre à côté d'une protection, à côté d'une arme. Parce que figer des chiffres sur une page aux armures et aux armes n'est pas représentatif de la myriade de situations qu'on peut retrouver en combat. Et avec cette approche, je peux me débrouiller dans n'importe quelle mise en situation. Tu es un policier. Tu as un 9 mm, un pistolet, et tu as un gilet pare-balles. T'es en plein milieu de la rue et t'es engagé dans une fusillade contre un criminel qui, lui, est caché derrière une voiture, tout près du bloc moteur. Il est armé d'un MP5 en 9 mm également, et il a les deux mains, les deux bras sur le capot, et tu vois son visage. Comme maître de jeu, je te demande qu'est-ce que tu fais? Ah, je l'attaque, très bien. Tu as combien en visée? Tu me réponds. Et avec quoi tu l'attaques?
Mais avec mon pistolet 9 mm!
Très bien, l'adversaire devant toi, lui, est en 9 mm également, mais c'est un pistolet mitrailleur qui l'a mis en position rafale 3 balles. Je lui donne l'avantage pour l'arme. Ensuite, au niveau protection, à moi de juger en tant que maître de jeu. J'ai un homme avec un gilet pare-balles, mais en plein milieu de la rue. S'il se prend une balle, même dans le gilet, il va la sentir pincer et plier des genoux. Et j'ai un criminel dont on ne voit que les bras, mais de façade, et la tête derrière une voiture. Mais je vais juger que le criminel a une petite longueur d'avance également sur la protection. Et voilà, je fais tirer le jet. Et le jet va être parfaitement adapté à la situation présente. Et si jamais toi, le policier, en tant que héros, tu décides de parcourir quelques mètres pour aller te mettre à couvert près d'un bâtiment, eh bien, ce sera à toi, ce tour-ci, d'avoir ce bonus d'avantage au niveau de la protection, parce que non seulement tu vas être autant protégé que le criminel, mais en plus, tu as ton gilet pare-balles. Tu viens de te donner un bonus sur ton jet de ta prochaine passe d'armes. Le système s'adapte à toutes les situations et la représente parfaitement. Ouf, ça se dit mal, ça, parfaitement, très lentement. C'est comme boum.
C'est pas beau à mon oreille.
Et si jamais pour toi, c'est inconcevable, ça te rentre pas dans la tête qu'on puisse tasser les dégâts, que c'est la valeur optimale pour mesurer l'efficacité d'une arme, et que changer ça pour le temps, exemple comme j'ai fait, c'est un sacrilège absolu,
Brûlons-le! Brûlons-le!
Hérétique! Au bûcher!
Eh bien, dis-toi qu'il y a un autre aspect qui va t'aider à digérer tout ça et accepter ce genre de vision. Et c'est très simple, c'est la passe d'arme. La passe d'arme, ça résout un paquet de problèmes. Pourquoi? Parce qu'une passe d'arme, c'est un échange de coups. Donc si pour toi, le couteau de combat,
c'est de la merde, c'est pas aussi létal que les autres lames.
Eh bien alors, lorsque quelqu'un remporte la passe d'arme et qu'il a un couteau, mais il ne décrit pas seulement un coup donné à son adversaire, il peut décrire 2-3 coups de couteau. Donc ça devient l'équivalent d'un glaive, d'une rapière. Tout le monde est heureux. Tu vois comment la vie c'est simple et facile. Le bonheur ne se trouve pas nécessairement dans un livre de règles de 300 pages. Une chaise berçante, un cul heureux, un ami, un dé à lancer. C'est si simple. Bon, je crois qu'on a fait le tour. En gros, grosso merdo, ce que je veux dire, c'est que de mettre un chiffre à côté d'une arme et d'une protection, ça fonctionne. Mais ça fonctionne pas rondement. C'est comme si tu roulais en voiture, mais avec des roues octogonales. Ça avance, mais c'est pas optimal, tout simplement. Il y a d'autres façons. Moi, ma façon, c'était de travailler sur le temps. Et ça fonctionne, mine de rien. Et je suis certain qu'il y a d'autres façons, dans d'autres jeux de rôle, d'aborder les armes et les dégâts. Autre que de figer tout ça dans une valeur chiffrée. Et là, c'est à toi de jouer. Si tu connais de tels systèmes, partage avec nous en commentaire. Ou si tu es avec un système, oui, avec des armes, avec un chiffre figé, mais que... Exemple, un couteau de combat est pour ridiculiser et qu'il reste très létal malgré un petit chiffre, mais partage aussi. Nous, on a soif de savoir. Et comme je te dis, je ne détiens pas la vérité. Je détiens ma vision.
Et quand bien même, vous ne sauriez qu'en faire de la vérité.
Alors, je t'invite à nous donner du pouce, à nous encourager, à écouter nos actuels plays, à nous écouter sur podcast, TikTok, Instagram, Facebook... Allez, abonne-toi si c'est pas déjà fait à la chaîne YouTube. Nous, on se dit à une prochaine, en actuel play ou en capsule. Et d'ici là, brasse ton JDR, imagite ton JDR.
Eric, est-ce que tu vas encore me bercer?
Non, non, là, ça fait 45 minutes que je me berce le baluchon. Là, j'en ai plein de cul. Imagitateur, imagitatrice, ciao!